Les municipales 2008.
Je m'y attacherai de toutes mes forces.
Et sont celles des Marseillaises et des Marseillais.
Voici donc le plateau réuni pour vous
à Marseille.
Municipal 2008 à Marseille.
Première émission dans la thématique que Grenouille vous propose autour des municipales 2008. Une thématique en forme de décryptage de ce qui compose et structure le pouvoir politique à Marseille. La grenouille ne craint certes pas de se mouiller, mais elle laissera à d'autres le soin d'onduler dans la mare ou de sonder les eaux troubles. Alors souvent, plutôt que d'élus, nous parlerons d'électeurs, plutôt que de batailles électorales, nous essaierons de parler de politique. Comment se fabrique et se distribue le pouvoir à cette échelle qui est la plus proche des citoyens et constitue leur environnement quotidien? Je veux parler de celle de leur ville. Premier rendez-vous dans cette thématique, on va aujourd'hui donner un coup de rétroprojecteur et mettre en perspective ce scrutin 2008 avec ceux qui l'ont précédé. Rassurez-vous, on ne va pas récapituler 26 siècles d'histoire. Rien n'indique d'ailleurs que les premiers chefs massaliotes aient été des élus du peuple. Non, on va se limiter, mais c'est déjà assez conséquent, à l'histoire contemporaine. Et pour l'aborder, plutôt qu'une vision historiciste, un regard très actuel, très en phase avec la vie politique phocéenne, celui de Michel Sanson, journaliste, auteur avec Michel Peraldi de Gouverner Marseille, et avec Jean-Louis Comolli de la série documentaire Marseille contre Marseille. Michel, bonjour.
Bonjour.
En fait, et pour être tout à fait juste, nous avions prévu que vous soyez accompagné d'un historien des faits politiques, Robert Mencherini. Mais en politique, comme sur un plateau de radio, rien n'est gagné, rien n'est certain, la preuve. On laissera donc un petit peu de côté la période des années 1930 à 1945, que Monsieur Mencherini connaît parfaitement, et on va plutôt commencer notre flashback à l'immédiate après-guerre. Après un mandat de 1944 à 1946, assuré par Gaston Defer, dont on reparlera abondamment tout à l'heure, un député communiste est élu en 1946 maire de Marseille, c'est Jean Christoffel. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais il symbolise la place prééminente qu'occupait le PC à cette époque. Alors Michel Sanson, peut-être quelques mots sur cette place éminente qu'occupait le PC dans l'immédiate après-guerre.
Il l'a occupé assez longtemps, puisqu'on y viendra tout à l'heure. En 1953, il est encore le premier parti dans cette ville. Ce qui se passe quand même après le mandat de Defer, qui n'est pas un mandat électif, qui est un mandat de sortie de guerre, si je peux dire, c'est que ce parti communiste est puissant sur le plan électoral, mais parce que ça correspond à une très forte implantation dans un mouvement ouvrier puissant, puisque, vous le savez, à la sortie de guerre, des ateliers entiers, des usines entières ont été occupées sous contrôle ouvrier, puisque les patrons étaient condamnés comme collaborateurs, ce qui fait qu'il y avait une effervescence sociale et politique tout à fait cousine, lointaine, tout à fait proche, que Robert Mencherini a d'ailleurs parfaitement étudié, ce qui fait que la venue au pouvoir de M. Christoffel, elle se fait dans les urnes évidemment, mais elle correspond vraiment à quelque chose de très fort dans l'ensemble de cette ville, et d'ailleurs le Parti communiste est le premier parti de France à peu près partout dans les autres villes de France. Voilà. Donc c'est une transition qui va durer, je ne sais pas exactement combien de mois, assez rapidement, balayée par d'autres élections, les gaullistes d'ailleurs, puisque c'est M. Carlini qui va lui succéder, dans lequel il y a beaucoup de choses qui nous paraissent absolument étranges. Il y a les sentiers de jeunesse, il y a toute une idéologie qui va avec la politique, des chantiers de reconstruction, des champs, toutes sortes de choses qui donnent à cette période-là, encore une fois que je ne connais pas bien, mais un aspect à peu près incomparable. Mais on est à l'effervescence de la libération et je pense que cette effervescence a produit des choses qui sont vraiment très difficiles à saisir tant elles nous paraissent sortir presque de la fin du 19e siècle.
C'est l'héritage en tout cas d'un mouvement ouvrier important à Marseille. On avait l'impression qu'à l'époque, ce mouvement ouvrier, il était très unitaire. Enfin, il avait réussi à trouver son unité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'il est au contraire très éparpillé ?
Il a trouvé son unité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un élément majeur qui va se dérouler dans le monde et à Marseille, il y aura sa pointe avancée, enfin un élément très, très important, la guerre froide. C'est-à-dire que, en vérité, vous dites que le mouvement ouvrier est très unifié, c'est vrai, mais c'est aussi là que se produit quelque chose de tout à fait important pour la vie politique locale, pour la vie ouvrière locale, c'est la scission de force ouvrière qui intervient un petit peu après, mais qui est en germe là. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier va être divisé en deux camps, le camp des pro-soviétiques, des pro-russes, des rouges, et puis un camp qui est au départ un camp tout à fait socialiste, social-démocrate, et même s'il est aidé par les syndicalismes américains, et qui est ce qui va donner force ouvrière. Et force ouvrière, on va en parler tout à l'heure, jouera un grand rôle dans deux lieux stratégiques de la ville de Marseille, qui sont le port et la mairie, de façon différenciée, bien sûr. Mais au point d'ailleurs que vous le savez probablement, le directeur de cabinet de Gaston Defferre pendant des années est un résistant, M. Calvelli, qui est un des fondateurs de force ouvrière. C'est-à-dire que il faut bien... Je disais tout à l'heure que la période était un peu singulière. C'est des choses qu'on a un peu oubliées, mais Force ouvrière sort de la CGT. Ça s'appelle CGT Force ouvrière. Donc, à l'époque, ce mouvement est unifié, mais la guerre froide vient diviser tout ça. Alors, pour une raison tout à fait particulière, c'est que pour la reconstruction de l'Europe et pour le plan Marshall, les Américains ont besoin d'un port qui ne soit pas tenu, entre guillemets, seulement par la CGT et les communistes. Donc, l'idée de la scission de force ouvrière s'inscrit aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a besoin, pour, encore une fois, pour finir la libération au début, puis après pour reconstruire l'Europe, de ports, entre guillemets, libres, ou au moins, il peut y avoir des grèves, mais qui ne sont pas tenues ou, par des militants ouvriers, voire des militants soupçonnés d'être des espions de l'Union soviétique, ce qui va produire donc cette scission tout à fait importante dans le mouvement ouvrier et à Marseille.
Trois grands axes dans cette présence de la gauche dans l'immédiate après-guerre. Une gauche anticléricale, une gauche anticoloniale et une gauche anticapitaliste. Finalement, on a l'impression que ça recoupe un petit peu ce qu'aujourd'hui on perçoit dans le mouvement alter, dans la gauche un petit peu radicale, qui essaye de se redévelopper, d'ailleurs de se ressourcer autour des mêmes pôles.
Peut-être. Je pense qu'on peut dire ça, mais qu'en même temps, il faut bien comprendre que à l'époque, dans le mouvement ouvrier, la puissance communiste est énorme. C'est-à-dire que c'est une puissance électorale, une puissance militante, mais une puissance idéologique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les courants d'extrême-gauche, que vous parlez d'altermondialisme maintenant, qu'on peut caractériser, même si ça les énerve, c'est quand même de ça qu'il s'agit, est à peu près inexistant. C'est-à-dire que, d'abord, les trotskistes sont faibles, ils se sont fait liquider... certains militairement, si je peux dire, d'autres écartés. Et il n'y a pas d'autres courants. Il n'y a rien à gauche du mouvement ouvrier, enfin du mouvement communiste, ou très peu, très peu. Il y a des traces, les historiens ont repéré des militants, etc. Mais en fait, l'hégémonie communiste est énorme. Pour la raison simple, c'est que ce parti a été, avec les gaullistes, mais en tous les cas sur le terrain, le parti de la résistance. Donc il a une légitimité qui va, si j'ose dire, au-delà de ses amis. Quand plus tard Malraux dira « entre les communistes et nous, il n'y a rien », il dit quelque chose de fondamental, c'est que tout l'après-guerre est marqué par les gens qui ont fait la résistance. Beaucoup, un petit peu, même si on fait de façon fictive pour quelques-uns, mais en gros, si on n'a pas été dans la résistance, on est disqualifié. Et ça marque aussi la droite, c'est-à-dire que la droite, et là aussi la droite collaboratrice, est liquidée, soit emprisonné, soit disparu, soit fuyard pour les fascistes officiels, si je peux dire. Mais une partie de la droite qui est très mal en point. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que succède au communisme un gaulliste. Et c'est après cette période communiste, puis gaulliste, quand on arrive aux élections de 53, qu'on a une reconfiguration. On reste toujours sur les résistants, mais résistants plus guerre froide va donner une équation singulière.
Vous avez commencé à l'évoquer, Michel Sanson, après cette immédiate après-guerre couleur Rouge Midi et après un intermède...
Rouge Midi était le nom d'un journal. Hein,
absolument, oui, bien sûr. Après un intermède RPF, donc gaulliste, incarné par Michel Carlini, s'ouvre en 1953 une longue période de stabilité politique avec l'ère socialiste incarné par Gaston Defferre, puisque Gaston Defferre a été réélu en 1959, 1965, 71, 77... et 83. Alors, le socialisme n'est pas arrivé aux affaires à Marseille avec Gaston Defferre. On se souvient de Flessière, je crois que c'était en 1892.
Et puis de nouveau, un petit mandat plus tard, Flessière, au début du 20e aussi.
Absolument, mais là, on a l'impression que c'est une ère véritablement qui s'installe à la mairie, sur le Vieux-Port. Le socialisme de Gaston Defferre, on l'a parfois qualifié de socialisme allié aux grandes familles marseillaises. Alors, comment Gaston Defferre est arrivé au pouvoir à la mairie ?
Alors, c'est une histoire, c'est... moi j'ai découvert en retravaillant cette période avec Michel Peraldi que, en fait, contrairement à ce qu'on croit, le pouvoir on le prend et après on le construit. Alors, de faire une légitimité ici, il rêve d'être maire de Marseille, on a des témoignages pendant la guerre, quand il est résistant dans le réseau Brutus, dont il est un fondateur, que déjà, il a compris une chose, c'est qu'il veut être maire lui, et qu'il faut des appuis nationaux. Bon, donc, Defferre ne sort pas de rien. Il a une vraie légitimité dans les réseaux socialistes, mais dans les réseaux militants. Dans... Bon, ça, c'est une chose. Mais en même temps, en 1953, premier parti de Marseille, le Parti communiste, toujours. C'est-à-dire que le parti reste, le PCF reste le premier parti. Ce qui se passe, c'est que les élections, on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, d'abord, je ne les connais pas par cœur. Defferre est élu en 1953 à la tête d'un parti socialiste minoritaire, et même pas majoritaire avec les autres partis de droite. C'est-à-dire que, en fait, Defferre propose une alliance, ça se passe d'ailleurs au conseil municipal, les gens sont là, il y a je ne sais plus combien de sièges, le Parti communiste est seul, et donc il ne peut pas avoir une majorité, parce que tous les autres votent contre lui. La droite pourrait être majoritaire, mais Defferre propose un autre accord. Il dit, moi, je vous m'allie avec vous, une partie de la droite, contre le Parti communiste, et cette alliance, qui est une alliance politique, va durer, en vérité, jusque dans les années 78-83. Bon, alors c'est un socialisme particulier, mais ce que je crois qu'on peut dire, c'est que, d'abord, Defferre est un socialiste, il est lui-même, d'ailleurs, je parlais de la guerre froide tout à l'heure, quelqu'un qui se bat contre les communistes au niveau international et au niveau local. Bien. Mais en même temps, Gaston Defferre fait quelque chose, c'est qu'il réalise quelque chose qui, à mon avis, fait le fondement de l'affaire. On pense toujours que c'est un peu bizarre de faire une alliance avec le centre droit ou la droite locale. Si on regarde ça d'un point de vue non historiciste seulement, mais social, on s'aperçoit d'autre chose. C'est qu'en fait, de faire passe une alliance entre les classes dominantes encore puissantes à l'époque et les classes moyennes de la ville et une partie du mouvement ouvrier. Et une partie, justement, non communiste du mouvement ouvrier. Donc. Et cette alliance sociale, en fait, sociologique, si je peux dire, va durer. C'est elle qui dure. C'est-à-dire que les formations politiques, l'air de rien, passent un espèce d'accord qui fait qu'on gère la ville selon les intérêts des grandes familles et des couches moyennes, et que ça, c'est quelque chose qui est durable. C'est-à-dire que dans cette alliance politique, on peut lire une alliance sociale qui exclut du champ les communistes et une partie de la droite, qu'on va appeler la droite colonialiste, ou plus tard de l'extrême droite. Voilà. Donc, ce grand courant central est dirigé par Gaston Defferre, qui, par ailleurs, est un type qui est assez remarquable du point de vue de la construction des réseaux, de la configuration, de la compréhension qu'il faut maîtriser des réseaux au port, à la sécurité sociale, à l'intérieur de la ville, plus les réseaux de communautés supposées, réelles, où il existe en Corse, arménienne, tout ce qu'on veut. Bon, il tient tout ça en ayant quelque chose de tout à fait singulier, d'ailleurs qui ne ressemble pas à notre maire d'aujourd'hui, c'est que Gaston Defferre est, du point de vue politique et social, un peu au-dessus. C'est-à-dire que, en fait, il est la clé de voûte du système, parce qu'il tient toutes sortes de réseaux. Mais moi, je crois que ça correspond à une alliance qui fait que tout bouge, tout s'effondre, le port s'effondre plus tard, les courants politiques basculent, mais lui, il reste toujours la clé de voûte qui fait que tout ça se tient.
Une alliance sociale, une alliance politique, mais peut-être avant tout une alliance économique. Après tout, l'économie, c'est le nerf de la guerre, y compris de la guerre politique. Cette alliance avec les grandes familles marseillaises, c'est peut-être aussi, en leur déléguant une partie du pouvoir, enfin de la chose publique, c'est faire en sorte que ces familles puissent donner des emplois et donc assurer une forme de paix sociale dans la ville. On a beaucoup connu récemment la théorie du gagnant-gagnant. À l'époque, c'était peut-être un peu donnant. Donnant.
C'est un donnant-donnant un peu singulier parce que Defferre a toujours été un patron. En l'occurrence, le groupe de presse dont qu'il a conquis, si je peux dire, les armes à la main en 1944 et qu'il a gardé après, qui sera le Provençal et plus tard le Méridional. Donc, ce que fait Gaston Defferre, il montre à la bourgeoisie locale qu'il sait gérer, lui. Et il ne gère pas avec l'autogestion, les communistes et autres. Hein, s'il a quand même liquidé la CGT dans sa propre boîte. Et sur le port, il s'est en bataille contre la CGT. Donc, en fait, il apparaît comme un représentant d'entrepreneurs, alors on dit bourgeoisie, mais en tous les cas d'entrepreneurs, tout à fait capable, tout à fait en accord avec la façon dont certaines familles gèrent. Alors, je voudrais préciser quelque chose sur les familles, qui est assez important. On a tendance à penser que ces familles de la bourgeoisie locale étaient des grandes familles. En vérité, si on prend à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale, ce sont finalement des petites choses. Parce que la grande ascension, c'est la fin du 19e. Dès la fin des années 50, les colonies s'effondrent. Et si on prend l'histoire, par exemple, du savon de Marseille, etc., Unilever qui rachète au fur et à mesure toutes les petites entreprises marseillaises, ça montre bien que c'était des petites entreprises contre la grande entreprise mondiale Unilever, basée à côté de Manchester. Donc, on a, par exemple, Unilever, qui est une boîte mondiale, et nous, à Marseille, ce qu'on appelle, nous, les grandes familles, ce sont en fait des petites familles. Vous faites des familles en fin de règne. Et donc, quand je parlais des classes moyennes, je les mets dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le grand capital, en vérité. C'est le petit capital par rapport à ce que c'est Unilever. Ça aussi, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps. Parce qu'on a tendance à dire les grandes familles, grandes bourgeoisies. Pas du tout. C'est des petits bourgeois qui se font manger par des grands bourgeois. Donc, quand je parlais de cette homogénéité sociale, il se passe un autre phénomène. C'est que accéder à la politique par la gauche permet à certains de rentrer aussi dans ces classes moyennes. Pour prendre monsieur Charles-Émile Lot, qui a été une des personnes les plus importantes des socialistes pendant des décennies, avec Gaston Defferre. Charles-Émile Lot est un petit-fils de concierge. Et peu à peu, en créant la SOCOMA, Société Coopérative de Manutention qui consiste à rentrer sur le port pour employer des dockers, ce qui était la façon de rentrer sur le port anti-CGT, anti-communiste, si je peux dire, Milou devient lui aussi un entrepreneur. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans l'ascension politique, se passe aussi une ascension sociale. Alors souvent on dit que c'est mal. Moi je ne sais pas si c'est mal ou si c'est bien. Mais ce que je constate, c'est que ces gens font fortune. Moi je ne dis pas qu'ils font de la politique pour faire fortune. Je n'ai pas du tout un regard cynique là-dessus. Mais il y a une ascension sociale. Monsieur Andrieux était taximan et il devient plus important. Monsieur Milou, Monsieur X, Monsieur Y. Donc on a ces couches moyennes issues de la bourgeoisie, souvent de droite. Et puis des couches moyennes nouvelles, issues de gauche, qui sont les caciques de ce parti. Et là on retrouve, c'est ça que j'appelle l'homogénéité. Ça n'empêche pas qu'ils ont des cultures différentes, qu'ils ont parfois ils sont traités par les vieilles familles de nouveaux riches, ces socialistes. Mais finalement, on est un peu du même monde. Et c'est ça qui fait qu'on peut gérer la ville ensemble. Sinon, on ne pourrait pas. S'il y avait des intérêts fondamentalement contradictoires, je pense que l'accord politique, l'alliance politique aurait explosé. Mais en fait, c'est pas ça. Ils voient la ville finalement de la même façon. C'est-à-dire, on bâtit, on est pour l'entreprise, et par ailleurs, il faut être gentil avec les pauvres. Ce qui n'est pas le cas des communistes qui disent les pauvres doivent prendre le pouvoir. Donc, moi, j'ai appelé ça, enfin, Michel et moi, on a appelé ça démocratie chrétienne, même si ce n'est pas le mot, mais c'est de ça qu'on veut parler.
Est-ce que ce mode de gouvernance, et y compris ce mode d'accès au pouvoir par Gaston Defferre dans les années 50, il était à cette époque-là original par rapport au standard national, au standard français?
Je ne sais pas. Alors, et ça, c'est une question très compliquée, parce que Michel et moi, puisqu'on parle toujours du livre, là, parce que c'est ce qu'on a travaillé, on n'a pas fait d'études comparatives. Ce qui est semblable, c'est la longévité des maires. C'est-à-dire que M. Chaban-Delmas, le maire de Lyon dont le nom m'échappe, bref, on a des gens qui restent 30, Gaston Defferre, c'est 33 ans, dans d'autres grandes villes de France, c'est la même chose. Première chose. Deuxième chose, tous ces maires sont en général, soit des médecins, soit des professions libérales, soit des professionnels de la politique, parce que Gaston Defferre est directeur d'un journal, propriétaire et directeur d'un journal, mais c'est un professionnel de la politique. Bon, c'est vrai de tous. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il me semble que dans toutes les villes de France, nous sommes dirigés entre ces années-là jusqu'à d'ailleurs maintenant, par des gens issus des professions. On n'est pas dirigé par des chômeurs, quoi, voilà. On est toujours dirigé par des gens issus de ces couches-là, souvent profession intellectuelle ou pas, profession, moi j'appelle politique profession intellectuelle, mais médecin, etc. Bon, ce qu'il y a, c'est que personne n'a fait l'étude pour savoir si c'était pareil à Lyon ou à Bordeaux. C'est-à-dire comparer la composition des conseils municipaux, ce qu'on avait fait avec Beraldi, des années 77, parce qu'avant, il n'y a même pas les registres, enfin, c'est très compliqué. On a ce genre de représentants. Est-ce que c'est les mêmes à Bordeaux, Toulouse et Grenoble? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que les maires issus de la résistance, directement ou indirectement, en fait, tiennent l'ensemble des villes. Parce que c'est les seuls légitimes. Moi, je pense que l'irruption du Front National dans les années, j'ai oublié, 80, ça nous signifie qu'on sort. Avant, on était tous sous le vent de la résistance. Voilà. Gaullisme, quoi. La droite disqualifiée, l'extrême droite était disqualifiée. Donc voilà. Donc tous ces maires sont de ces familles-là. C'est pour ça qu'ils se tutoient, c'est pour ça qu'ils se connaissent, ils ont les mêmes codes d'honneur, comme on dit. Parce qu'ils ont partagé, certains au risque de leur vie, d'autres au risque politique, d'autres moins, mais peu importe, ils ont partagé cette idée. Et ça a marqué toute la vie politique nationale et locale, et ça je crois que c'est partagé partout.
Rappelons d'ailleurs à cette occasion que Gaston Defer a eu de nombreux mandats nationaux, y compris ministériels, et que sa notoriété politique n'est pas strictement cantonnée à Marseille et aux spécificités de la politique marseillaise.
Je crois qu'on peut dire à ce propos-là, c'est tout à fait important, un élu local, c'est quelqu'un qui est reconnu localement et à Paris. Il n'y a pas d'élu local. Pour être un élu local reconnu chez soi, il faut avoir des entrées à Paris. Avant d'être reconnu, ça fait partie du cursus. C'est-à-dire qu'on n'est pas le type du coin. On est le type du coin écouté à Paris. Et à Paris, on est écouté par ce qu'on représente, on est légitimé chez soi. Donc c'est pas l'un contre l'autre. C'est pas, il faut être reconnu à Paris et pas à Marseille, il faut être reconnu des deux. Et Gaston Defer l'a si bien compris qu'on a des témoignages sur dès 44 avant la libération de Marseille, il va parler aux dirigeants socialistes nationaux en se présentant comme le représentant futur de Marseille. Bon. À quoi ça sert ça? C'est pas simplement une question d'honneur. D'abord, ça compte. Moi, je pense que l'honneur compte beaucoup en politique. Mais c'est aussi que quand on sera au pouvoir, on sera écouté. Pour obtenir de l'argent pour Marseille, pour, par exemple, Romain d'aujourd'hui, il faut bien que M. Gaudin soit écouté. Donc on dit, attendez, lui, il est bien reconnu, on va lui donner de l'argent. Pas à lui personnellement. Mais c'était vrai de M. Vigouroux et c'était vrai de Gaston Defer. Donc la reconnaissance nationale est partie intégrante du mandat local.
Gaston Defer, qui, rappelons-le, n'était pas natif de Marseille, d'ailleurs, comme quoi il ne faut pas forcément être un enfant du Vieux-Port ou de Mazargues pour devenir maire de cette ville.
Ce qui est amusant, c'est que non seulement il n'était pas natif de Marseille, mais en plus il était protestant. Et je dis ça parce que on a souvent une vision un peu mécanique, quoi. À Marseille, tout le monde est catholique. Eh ben non, lui, il était un, socialiste, deux, avocat, trois, protestant, et il a été maire sans que personne se pose la question. Mais peut-être avait-il une façon de... Quand je dis tout à l'heure, il était la clé de voûte, il était un petit peu au-dessus des autres. C'était, comme on dit un peu dans un langage un peu précieux, un patricien, c'est-à-dire un monsieur qu'on vous voyait, qui gardait toujours des distances. Il avait une espèce de réserve, l'air de rien, dans son comportement. C'est quelqu'un qui était un séducteur, mais qui était quelqu'un qu'on craignait plutôt. Il ne jouait pas tellement la familiarité avec ses électeurs, ou même, et surtout, avec ses directeurs de cabinet ou autres élus, qui traitaient de façon très autoritaire.
Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure à propos du Front National et de l'irruption de l'extrême droite dans la politique marseillaise au cours des années 80. Une sorte d'effet retard de la décolonisation. Jusque dans les années 60, Marseille, c'est le lieu idéal du cosmopolitisme, comme l'a montré l'historien Émile Témim, le lieu du vivre ensemble, selon l'anthropologue Francis Selem, une sorte de parangon du cosmopolitisme. Et pourtant, cette décolonisation et notamment l'indépendance de l'Algérie acquise en 1962 provoque un certain nombre de conséquences avec une dizaine d'années de retard. Dans les années 1970, et particulièrement une année noire, 1973, des flambées de violence interviennent à Marseille et qui devient la capitale du racisme. Est-ce que c'est la décolonisation qui est, selon vous, responsable de cette importance croissante de l'extrême droite à Marseille?
Pour une part, on peut le dire. Mais je vais prendre la question autrement, parce que je me souviens parfaitement, parce que je suis assez vieux pour ça, de cette période horrible de 73, avec des Arabes assassinés, ceux qu'on cherche, qu'on trouve, je ne sais pas, qu'on cherche même leurs assassins, plus
le consulat d'Algérie,
plus,
plastiqué.
Une bombe au côté d'Algérie qui fait 8 morts, si mes souvenirs sont bons. Enfin, en tous les cas, qui fait des victimes graves. Bien. Alors, mais je vais revenir à ça, si vous pouvez m'en penser, si vous voulez. Sur les pieds noirs, je voulais dire autre chose. D'abord sur le cosmopolitisme, après sur le pied noir. Sur le cosmopolitisme, c'est un, vous savez peut-être, mais pour moi c'est un mythe. C'est-à-dire qu'il y a à Marseille des gens venus du reste de la Méditerranée. Mais quand on regarde les statistiques, et encore maintenant, le nombre d'étrangers à Marseille par rapport aux autres grandes métropoles, Lille, Lyon, Paris, est le même. Il n'y a pas tellement plus. Quand on demande la représentation politique, c'est pareil. On est plutôt, sinon en retard, du moins pareil. Bien. Donc ça c'est une première chose. Mais d'autre chose est que, on dit cosmopolitisme, ça signifie qu'il y a des gens d'origine, de culture, disons arménienne, bien, qui sont représentés ou reconnus. Mais les Kabyles sont à Marseille depuis 1915.
Les Italiens depuis les années 20.
Voilà. Mais sauf que les Italiens et les Arméniens rentrent peu à peu dans le jeu social et politique, et les Arabes jamais. Donc ce que je veux dire de cosmopolitisme, il oublie souvent des communautés qui sont présentes, enfin des groupes, moi j'aime pas trop le mot communauté, qui sont présents à Marseille, simplement qu'on ne voit pas. Et qu'on ne veut pas voir, mais ils sont là. Et ils sont là depuis fort longtemps. Les travailleurs coloniaux. Il y a, pour prendre un exemple, quand vous voyez dans des grèves de la SNCM, il y a toujours quelques Sénégalais dont les pères étaient eux-mêmes marins. Eh bien, ces Sénégalais, ils étaient invisibles dans ce soi-disant cosmopolitisme des années 60. Invisibles. C'était après tout que des Noirs dont on ne savait rien. Donc, il faut un peu se garder d'illusions, un peu, avec un mot savant, irénique. Tout le monde est content, tout le monde est gentil. Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Autre communauté absolument absente de la vie sociale, c'est les Gitans, qui sont des dizaines et des centaines depuis très longtemps dans cette ville. Donc voilà, je modère un peu la chose. Sur les pieds noirs, il y a autre chose de très important. C'est qu'ils ont joué un rôle tout à fait décisif dans la ville pour deux raisons, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont caché la crise. Ils ont caché la crise de l'effondrement définitif du commerce colonial qui part des années 50, 60. Quand le bâtiment va, tout va. Quand les pieds noirs arrivent, on construit. Bon, eh bien, toute la ZUP numéro 1, les Flamands, les Iris, etc., sont construits à ce moment-là pour loger. Alors, les pieds noirs, beaucoup passent à Marseille, beaucoup s'en vont parce qu'ils sont mal accueillis, à tout point de vue. D'abord parce que personne n'avait prévu qu'ils seraient si nombreux. En plus, Gaston Defferre et toute la tradition anticoloniale communiste à Marseille les fait voir d'un très mauvais œil. D'un très mauvais œil. Donc beaucoup s'en vont et beaucoup reviennent. Mais ils jouent un autre rôle. D'abord, ils cachent la crise économique pour le bâtiment, parce qu'il faut les loger. Et puis eux-mêmes se battent comme des chiens pour retrouver une dignité, un travail dans le textile. Et ils le font, ils y réussissent fort bien. Mais par ailleurs, ils jouent un rôle important dans la métropolisation de la ville de Marseille. C'est-à-dire que les premiers qui comptent dans toute la zone industrielle de Vitrolles ou de Plan de Campagne, bien souvent, ce sont des pieds noirs qui s'installent là. Et donc, ils élargissent le bassin d'emploi, le bassin économique, le bassin social de la ville de Marseille. Et ils la métropolisent. Alors, évidemment, il n'y a toujours pas de Marseille-Provence métropole, c'est une invention récente. Mais à l'époque, on a là une explosion de Marseille hors les murs et la richesse se fait autour de la ville et ils ont joué un rôle tout à fait décisif là-dedans. J'ai oublié la question, le rapport avec 73, mais je crois effectivement...
En tout cas, malgré cet afflux de population, des rapatriés d'Afrique du Nord, malgré ces flambées de violences racistes en 1973, il ne semble pas que cela affecte la stabilité politique à Marseille. Gaston Defferre reste au pouvoir et réélu régulièrement. Et quel était sa recette?
Je ne sais pas quelle est sa recette, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est tout à fait frappant effectivement dans cette stabilité. Il y a une incroyable stabilité. Le maire, Gaston Defferre, est maire pendant 33 ans. Bien. Lui succède M. Vigouroux, issu de la majorité Defferre. 9 ans. On a oublié, mais c'est 9 ans. Hein. C'est 3 ans sans élection, puis après 6 ans un mandat. Et maintenant, M. Godin, qu'on a 2 mandats. Bien. Ces 3 ont été dans le conseil municipal de Defferre, dans sa majorité. Donc ça fait une incroyable stabilité en même temps. On n'a pas changé. M. Godin, évidemment, a toujours été à droite, mais en fait, il était dans la majorité Defferre. Bien. Et Vigouroux aussi. En plus, pour revenir sur ces visions un peu sociales et sociologiques, on a un avocat devenu permanent de la politique, un médecin devenu permanent de la politique pendant des mois. Il déteste qu'on dise ça, mais c'est une réalité.
Et un professeur.
Et un professeur, etc. Donc on a toujours les mêmes racines sociales, si je peux dire. Bon, alors... Comment ça marche? J'en sais rien. Simplement, il faut comprendre. C'est pas parce qu'il y a stabilité qu'il n'y a pas effervescence. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est un boulot de chien de rester au pouvoir. Enfin, Monsieur Gaston Defferre reste au pouvoir, mais il travaille à y rester tout le temps. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de gérer les réseaux supposés ou réels de Corse. Monsieur Leccia, à l'époque, était, alors les Corses, il y a des dizaines d'associations corses. Mais Monsieur Leccia était toujours auprès de Gaston Defferre, donc les Corses pouvaient s'adresser directement ou symboliquement ou penser pouvoir s'adresser. Parce que le clientélisme, c'est souvent, on pense qu'on va obtenir quelque chose et l'autre pense qu'on va voter pour vous. Parfois, il n'y a même pas d'échange matériel, hein, c'est un échange parfois symbolique. Bon. Donc, il a les clés de tous ces réseaux. Mais on passe son temps à les activer, ces réseaux. On reste pas inerte. Non seulement on reconstruit la ville, ce qui a été le cas de M. Gaston Defferre, avec des choses parfois formidables, parfois aberrantes, sur le plan urbanistique, mais peu importe. Donc c'est un travail. Mais conserver les réseaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir placé dans les endroits stratégiques de la ville, avec des gens qui ont chacun une aire politico-géographique, des barons du système, Monsieur Milou, Charles Milou, on en a parlé dans le sud, Madame Irma Marpuzzi dans ce qui est le 4-5 maintenant, Monsieur Végan qui est dans tous les quartiers nord ascendant devient une des puissances là-bas, et donc ce réseau est articulé sur des piliers qui eux-mêmes fonctionnent avec des réseaux d'amicales, de comités d'intérêt de quartier, de liaisons syndicales, etc. Bon. Donc entretenir ce réseau en permanence, c'est le travail. Et c'est pour ça que ça marche. Mais, encore une fois, ça n'empêche pas qu'il y ait des dures batailles politiques, l'extrême droite essaie de s'imposer, le PC reste très puissant. Rappelez-vous qu'en 1981, encore, 81, le premier candidat présidentiel, c'est Georges Marchais. qui remplit un stade Vélodrome. Alors, pas 60 000, d'abord, il était plus petit, mais voilà. Donc, il y a une bataille sourde, lourde. Si le métro s'arrête au pied des quartiers nord, c'est aussi parce que c'est des quartiers qu'on délaisse. Donc, rester au pouvoir, il ne faut pas croire que c'est une cure de repos. C'est le contraire.
De faire en bataille sur deux fronts, bien sûr contre la droite et éventuellement l'extrême droite dont on parlait à l'instant, mais aussi contre la gauche, contre le Parti communiste notamment. Malgré le programme commun en 1972, on sent bien les tensions très fortes à l'intérieur de Marseille entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Il y a d'ailleurs en 1977, à l'élection de 77, deux listes séparées. Donc là, on retrouve une dissension entre ces deux grands courants de la gauche.
Absolument. Et au début, alors c'est ça qui est tout à fait amusant, enfin moi qui me fait toujours rire ce genre de choses. Gaston Defferre est un dirigeant national du Parti Socialiste qui signe l'Union de la Gauche, et localement il ne la fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas envie, parce que fondamentalement son alliance politique, sociale, culturelle, c'est pas avec les communistes, c'est même contre les communistes. Donc c'est impossible de la faire. Enfin, c'est impossible. Sinon, il faut rompre toutes les alliances, ce qui fera un coup plus tard. Et ce qui, d'ailleurs, finalement, lui portera pas chance, si je peux dire, parce que il s'allie avec un parti communiste qui commence à décliner quand même, en 83. Bien. Mais dissonance entre le local et le national, elle existe, elle interroge des gens, mais la puissance politique de faire à cette époque est telle qu'elle n'a pas de conséquences pratiques. Bon. Il faut quand même signaler une chose, c'est que Gaston Defferre est membre du Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste, c'est pas le Parti Communiste. Il est plus unifié à l'époque qu'il ne l'est maintenant. Mais enfin, il y a des courants dans le Parti Socialiste déjà à l'époque. Et il faut se rappeler que Gaston Defferre plaidait au niveau national pour l'alliance avec le centre. Quand il est candidat Monsieur X à la présidentielle, j'ai oublié l'année, vous allez me la souffler, il fait une alliance avec l'Express, enfin, c'est l'Express qui lance l'idée, le candidat X, il s'appelle comme ça, le candidat
oui, Monsieur X. Je ne me souviens plus l'année, mais
ouais,
effectivement.
Voilà, 65, et après j'ai oublié, peu importe, avec Servan Schreiber. Donc, Gaston Defferre, au niveau national, n'est pas pour l'alliance avec les communistes. Il n'a jamais été. Hein. Alors, une fois que son parti l'a fait, il prend un temps de retard, il le fait. Mais fondamentalement, lui, il est construit dans sa vie politique, localement. C'est ça que je disais, d'ailleurs. C'est une personnalité politique nationale, et on le verra dans l'Union de la Gauche, puis il sera ministre de l'Intérieur de Mitterrand, etc., donc ça compte. Mais il porte aussi, lui, toute sa vie politique locale, et il la porte à Paris, et réciproquement. Donc il ne fait pas d'alliance avec les communistes, et dans le Parti communiste, on a encore des traces aujourd'hui de la détestation dit de faire, hein, de cette histoire. Ce Parti communiste s'est construit, enfin, a perduré pendant des décennies contre le deferrisme, contre le socialisme local, contre le socialisme municipal. La CGT contre Force ouvrière, parce qu'on n'en a pas reparlé, mais quand je disais tout à l'heure de rester au pouvoir, ça voulait dire avec une alliance privilégiée avec Force ouvrière, en particulier à la mairie. J'ai dit tout à l'heure que la construction de Force ouvrière s'est faite aussi. C'est-à-dire que de faire la construction de pouvoir aussi à l'intérieur des employés municipaux. Il n'arrive pas, tous les employés municipaux sont pour lui. Mais après, il passe une alliance, un accord politico-syndical avec Force ouvrière, comme je l'ai dit, qui avait été créé par celui qui sera son directeur de cabinet pendant des années. Et donc, il y a des rapports très singuliers avec ce syndicat. Donc, il construit ce pouvoir-là, et Force ouvrière est fondamentalement anticommuniste aussi, puisque ça s'est créé sur une scission guerre froide anti-domination communiste dans la CGT. Donc, on voit bien comment ça marche, et ça fait de la contradiction avec Paris. Mais enfin, la contradiction, ça fait partie des choses que de faire régler à sa manière.
Une des méthodes de Gaston Defferre pour conserver son pouvoir, c'est le découpage électoral, un découpage facilité par son statut de ministre de l'Intérieur en 1982, dans le cadre des lois sur la décentralisation. Il est l'auteur de la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, une loi assez complexe, enfin, on ne va pas revenir sur toutes les arcanes de cette loi, mais qui aboutit en tout cas à un découpage électoral à Marseille particulièrement en dentelle, si on peut dire, et qui semble être dirigé justement contre le Parti communiste, encore plus que contre la droite.
Oh, je pense que... Je ne sais pas s'il est dirigé contre, je sais qu'il est dirigé pour. Il est dirigé pour Gaston Defferre, puisque vous l'évoquez, en 1983, M. Gaudin se présente pour la première fois à la mairie. Il a plus de voix que M. Gaston Defferre.
3000 voix de plus, et voilà. Pourtant il est battu.
Et puisque le système est le suivant, donc on est par secteur. Alors à Paris, c'est par arrondissement. Premier arrondissement, premier secteur. Chez nous, non. Bon. Et nous, c'est par exemple, il y a le premier arrondissement, très populaire maintenant.
Les secteurs recoupent deux arrondissements.
Deux arrondissements, et pas forcément le 1-2. La preuve, c'est que c'est le 1-7, puis après c'est le 2-3, puis après ça tourne à peu près, si on peut dire, logiquement. Enfin, ce découpage est fait par un expert, hein, Monsieur Defer, qui est un grand expert de ces questions-là, et il donne ce résultat. Donc, effectivement, il limite, il laisse les communistes dans leur coin, si je peux dire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de sièges par rapport aux voix, si je peux dire, et, mais ça ne suffit pas en voix. Par contre, le découpage est fait de telle façon, puisque donc les secteurs envoient tant de représentants au conseil municipal en fonction de la population, il y a des secteurs qui en envoient plus que d'autres. Résultat des courses, on peut avoir plus de voix au suffrage universel et moins de sièges au conseil municipal. Et comme c'est le conseil municipal qui élit le maire, et c'est pas l'électeur directement qui choisit M. Defer comme M. Godin ou M. Guérini aujourd'hui, eh ben c'est un suffrage à deux tours. Et ce truc à deux tours aboutit à cette distorsion du vote démocratique en 83.
Le 5 mai 1986, Gaston Defer meurt soudainement et ouvre une querelle de succession particulièrement sanglante au sein du PS, et qui aboutira à l'élection de Robert-Paul Vigouroux. Peut-être quelques mots sur le contexte de la succession de Gaston Defer immédiatement après sa disparition.
Il y a quelque chose, enfin, moi je prends grande attention aux événements personnels tels qu'ils se passent, mais je pense que pour les comprendre, il faut toujours... les resituer dans un cadre plus global. C'est-à-dire que se cristallise sur une petite histoire quelque chose qui est plus profond que ça. Alors, on va dire que donc Gaston Defer meurt dans son appartement, hein, il vivait entre Paris et Marseille, et puis il assiste depuis 2 ou 3 ans, et en particulier depuis quelques mois, à une bataille de succession Michel Pezet, voulant prendre de plus en plus de place.
Michel Pezet plutôt rocardien.
Plutôt rocardien. Je ne sais pas si c'est ça qu'il joue. Je pense que Michel Pezet estime que maintenant, c'est à lui, il était socialiste, et qu'il faut qu'il prenne plus d'importance. Donc il y a une bataille qui s'engage à l'intérieur du Parti Socialiste, dont on va passer beaucoup d'épisodes. Et donc Gaston Defer meurt une nuit en tombant chez lui. Il avait une fracture du crâne, pour résumer. Mais au sortir d'une réunion où il venait d'être rebattu par les amis de Michel Pezet. Bon. Alors, cette anecdote... qui devient quelque chose de terrible à porter pour Monsieur Pezet, parce qu'il est accusé quasiment d'avoir tué lui. Et je peux vous dire, j'ai même pris moi un taxi qui m'a expliqué que c'était lui qui l'avait tué, mais physiquement, c'est évidemment pas vrai. Mais ça symbolisait le fait que Monsieur Gaston Defer était peut-être usé et que Monsieur Pezet voulait faire une nouvelle génération pensant que le système Defer était mort. Voilà. Bon, ça se traduit comme ça. Alors, le Parti socialiste explose de fait entre les amis, bon, on ne rentre pas dans les détails, et se trouve élu donc M. Vigouroux, qui était déjà élu. Donc M. Vigouroux ne sort pas de rien, c'est évidemment pas un parachuté, mais il sort du Parti socialiste, il était un proche de Gaston Defer aussi. C'est un candidat de compromis qui est donc élu en 86 jusqu'en 89, à l'intérieur du conseil municipal, pas par le, on ne retourne pas devant les électeurs. Mais le groupe socialiste se divise et finalement on élit M. Vigouroux. Et en 89, M. Vigouroux se présente pour le coup devant les électeurs avec des listes Vigouroux, quoi, qui remportent un succès phénoménal, puisque dans cette lutte par secteur, il remporte 8 secteurs, ça fait le grand chelem.
On a un peu l'impression pourtant que cette élection de 1989, elle n'était pas prévue, qu'on avait imaginé que Robert-Paul Vigouroux serait un intérimaire entre la mort de Defer et puis l'élection de 1989, et que finalement il a pris goût à ce fauteuil qu'il a occupé pendant 3 ans, et qu'il s'est représenté alors qu'on ne l'attendait pas. Et avec un succès en plus considérable, comme vous le rappeliez, victorieux dans les 8 arrondissements, enfin dans les 8 secteurs de Marseille.
Moi, je pense que cette affaire Vigouroux, que j'avais suivie de près, puisque j'avais fait un film, le premier film que j'ai fait, on avait filmé cette affaire-là. Et je dois dire que jusqu'au résultat du dimanche, je n'avais pas soupçonné du tout, comme d'autres, mais en tout cas moi, qui suivais ça, du tout, qu'il puisse gagner les 8 secteurs. Bon. Alors, depuis, j'ai un peu réfléchi. Je pense que l'élément qui a joué, donc il a été maire 3 ans puis 6 ans. À part ça, il est aussi, en 95, fini dans un truc incroyable, ne se représentant même pas, parce que les sondages lui donnaient même pas 10%, j'ai oublié. Donc il y a une espèce de phénomène étrange, comme une bulle qui a éclaté. Alors quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'il se tramait des choses, c'est pas tramé au sens du complot, mais il y avait des forces étranges, nouvelles qui jouaient. Et d'abord, le Front National arrive dans la scène, sur la scène, première chose. Le tapisme arrive sur la scène. C'est-à-dire ces années-là, c'est des années, je crois, d'un grand désarroi politique global. Le monde est en train de changer de base électorale en tout cas. On a parlé de l'éruption d'extrême droite. Ce phénomène du tapisme qui est un rejet des partis au profit de personnalités brillantes, société civile, grande gueule, tout ce qu'on veut. Bon, ce qu'on appelait le populisme, encore que j'aime pas beaucoup le mot. Enfin bref, travaille d'abord un peu toute la société française, mais à Marseille, c'est explosif. Et donc je pense que Vigouroux apparaît là comme quelque chose à la fois... Contrairement, il n'aime pas qu'on dise ça, mais quelqu'un qui sort du système de fer, ce qui est le cas, et en même temps qui pourra, qui fait une espèce de continuité étrangement. Et finalement, sa façon de gérer conduit à une impasse, puisqu'il est, il se représente même pas en 95. Bien. Donc on a un phénomène très particulier. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que quand on réfléchit qu'il a été maire pendant 9 ans, comment il était d'un certain point de vue effacé des mémoires. Alors les autres acteurs politiques l'effacent de leur mémoire parce qu'ils disent qu'il n'est pas de notre monde, lui-même disant qu'il n'est pas du monde politique, mais en même temps, parce que les choses sont en quelque sorte se sont restabilisées, renormalisées. Donc c'est une période un peu exceptionnelle, un peu étrange sur le plan électoral, même s'il y a eu quand même une continuité de gestion, parce que on peut dire ce qu'on veut, Euro-Méditerranée, c'est plutôt Monsieur Vigouroux qui le met sur les rails, même si c'est Monsieur Gaudin qui en profite, Grand Littoral aussi, la communauté urbaine aussi, donc il a fait beaucoup de choses, Monsieur Vigouroux, et très furieux qu'on le reconnaisse pas. Mais ce qu'on reconnaît, la mémoire le garde de façon un peu étrange, parce qu'il est un peu étrange dans le paysage.
Robert Vigouroux, effectivement, un personnage étrange dans le paysage politique à Marseille. Il ne semble pas s'appuyer sur les clans politiques, mais plutôt il envisage de s'appuyer sur des communautés, peut-être en réponse justement à ce racisme qui se développait au Front National. Il crée Marseille Espérance. Il dit notamment dans les colonnes du Monde, un journal que vous connaissez bien, Michel Sanson, « Je ne suis pas favorable à l'intégration à tout prix ». Au fond, Robert Vigouroux, c'est l'apparition d'une forme de communautarisme ?
Robert Vigouroux, effectivement, crée Marseille Espérance, donc cette association étrange, sans statut. Il n'y a pas de, c'est pas une association de 1900, parce qu'on ne peut pas mettre un président entre les religieux qui se parlent sous l'égide, même pas sous le commandement, l'égide un peu informel du maire. Bon. Alors, c'est vrai que c'est une formation étrange, mais il y a une réponse à cette question. Robert Vigouroux, devenant dissident du Parti Socialiste, puisque c'est Michel Peset qui obtient finalement, parce que dans le Parti Socialiste, il est plus puissant. Autant il avait perdu contre Defer, autant contre Vigouroux, il gagne, Michel Peset, au niveau national. Et il est investi par le Parti Socialiste. Et Vigouroux représente 100 partis. Les gens du Parti Socialiste le rejoignent, mais là, pareil, et le parti officiellement ne le soutient pas. Donc, M. Vigouroux a besoin de réseaux autres. Et il imagine, je dis ça par des témoignages que j'ai recueillis depuis, d'aller voir un juif, un arabe, un ceci, un cela, pour contourner les vieux réseaux traditionnels. Et inventer une nouvelle forme d'implantation dans la ville. Donc, moi, je ne sais pas s'il est communautariste. Je sais qu'il a besoin d'autres réseaux. J'aime pas le mot communautariste parce que c'est un mot qui sert juste à discréditer. Je ne sais pas ce que c'est comme le mot fasciste. On ne sait pas ce que ça veut dire. Simplement, ça veut dire mal. Donc, moi, quand un mot est tellement marqué moralement, je l'enlève. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il a besoin de réseaux. Et je peux vous dire que si vous parlez avec des entretiens là-dessus, moi, pour préparer toujours avec Michel Peraldi, des gens qui venaient voir spécialement pour ça, en disant « Toi, t'es franc-maçon, par exemple. Toi, t'es ceci, et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes réseaux. » Parce qu'ils les avaient pas. Mais c'est une réaction, après tout, tout à fait normale. Donc, Marseille Espérance va avec ça. Mais est-ce que dans sa tête, il est, entre guillemets, communautariste ? J'en sais rien. Parce que moi, je pense que les politiques, ils ont dans la tête des vagues idées, comme tout le monde, et après, la nécessité fait loi. Et c'est, ils construisent leur idée avec leur pratique. Enfin, il y a toujours un rapport entre les deux. C'est ni des idéologues purs, ni des praticiens purs. C'est un mélange des deux. Donc, Vigouroux, ayant besoin de contourner, trouve ça. Et ça lui porte pas tellement chance. En même temps, ça crée Marseille Espérance, qui est une chose qui est très étrange, qui peut être critiquée d'ailleurs par des laïcs, etc. Mais qui, en même temps, dont on peut pas dire du mal, on peut pas vraiment dire du mal, de gens qui se disent, aimons-nous, ne nous mettons pas sur la gueule. Quand il y a la guerre du Golfe, ils disent, juif arabe, on se parle et on est copains. Si j'ose dire, ça mange pas de pain. D'autant que ça a une existence très... qu'on veut bien lui donner. Si on s'en fout, on s'en fout. Et si on trouve ça bien, encore une fois, je préfère que les gens disent « aimons-nous » que « détestons-nous ». Ça répond, pardon, quand même aussi au souci anti-Front National qui animait M. Vigouroux. J'ai oublié de le dire, je ne veux pas le gommer, ça non plus, hein, bien sûr.
Robert-Paul Vigouroux, une action à la mairie dont le souvenir politique commence un peu à s'effacer, peut-être à tort. En tout cas, quelqu'un qui restera dans les mémoires à Marseille comme un grand impulseur de projets culturels, quand aujourd'hui on critique peut-être une certaine absence de politique culturelle à Marseille. Eh bien là, au contraire, on a l'impression de quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la culture, qui a beaucoup favorisé la création de structures. On voit par exemple, cette année, de très nombreuses structures culturelles à Marseille fêtaient leurs 20 ans. Eh bien, ça tombe précisément sur l'époque où Robert Vigouroux était aux affaires. Peut-être quelques mots sur cet intérêt particulier pour la culture.
Absolument, nous sommes à la Friche. Hein, et il s'agit bien de quelque chose qui a été impulsé sous la direction de M. Vigouroux. Alors, il avait un adjoint assez extraordinaire, assez exceptionnel au sens technique du terme, exceptionnel, qui s'appelait Christian Poitvin. Ou Julien Blaine, son nom d'artiste, créateur, performeur, et qui avait un statut important. Donc il connaissait Vigouroux parce que Vigouroux est un peintre. Vigouroux s'est toujours intéressé à la culture, un peintre contemporain, pas des grands aplats provençaux des années 60. Et il a proposé ça à Poitvin, qui est rentré dans son équipe et qui effectivement a aidé, a compris une effervescence. Il faut quand même ajouter que ça venait pas de nulle part. La fin du règne de Gaston de Fer est aussi un règne où se passent des événements culturels d'importance. Et Poitvin est enfant de ça aussi. Hein, donc. Mais il y a manifestement un enjeu majeur. Alors, pour dire les choses, c'est très important de le dire à Marseille, mais je pense que ce phénomène de prendre la culture comme un événement politique majeur, créateur d'emplois d'ailleurs, c'est pas que marseillais. Mais il se trouve qu'à Marseille, ça a eu. Et s'il y a tellement de structures culturelles dans les friches, c'est que ces friches ont été en fait occupées par des artistes. Il y a peut-être une raison cynique à ça, hein, c'est que les artistes, ils reconstruisent gratos et on peut les virer demain. Alors que quand on met une entreprise, c'est pas comme ça. Donc il peut y avoir, c'est pas un calcul cynique, mais c'est plus simple de mettre un artiste. Bon, de toute façon, lui va tout faire, après on peut le virer.
Bah, faudrait voir à nous virer, ça c'est pas gagné.
Oui, mais 20 ans après, c'est plus la même chose.
Ah, ça c'est clair. En tout cas, en 1995, Robert Vigouroux commet une grande bourde politique. 95, c'est l'élection présidentielle, il soutient Robert Balladur. Édouard Balladur, pardon, et il semble qu'on ne lui pardonne pas ce virage, et cela permet à Jean-Claude Gaudin d'être élu cette même année, en 1995. Jean-Claude Gaudin, à l'origine, une droite libérale, assez modérée, assez bonhomme, on rappelle d'ailleurs qu'il a été élu pour la première fois à Marseille sur une liste de fer, je crois que vous l'avez évoqué.
Il a été adjoint,
tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que M. Gaudin est de plus en plus à droite, c'est-à-dire qu'il a commencé au centre droit et que petit à petit, en rejoignant ensuite d'autres formes politiques, il s'est un petit peu droitisé?
Je dirais le contraire. Je dirais le contraire. Je dirais que c'est le premier mandat et le deuxième mandat, par exemple. Je pense que Jean-Claude Gaudin est arrivé au pouvoir après deux élections où il n'a pas gagné, et en passant par la direction de la région. Rappelez-vous qu'à la région, il avait ce qu'on appelle un accord technique avec le Front National. Accord technique, c'était un accord politique. Tout le monde disait technique pour s'arranger.
Plusieurs vice-présidents de la région appartenaient au Front National.
Absolument. Et pour gagner la ville, il a rompu avec le Front National. Pour la raison qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette ville, où il y a eu des phénomènes de racisme, de flambée raciste, le Front National très puissant, n'empêche que pour diriger la ville, manifestement, c'est pas ça qu'il faut. Il faut être recentré au centre-droit, centre-gauche. C'est une première chose. Deuxième chose, moi je pense que M. Gaudin a compris en dirigeant la ville qu'il y avait des choses qu'on pouvait plus faire et dire comme avant. C'est-à-dire que son langage est largement, je dirais centre-gauche, hein, encore une fois, démocrate chrétien courant droit, courant à droite. Mais je ne dirais pas qu'il est passé, il est passé plus à droite dans sa gestion sur les 12 ans. Je vais vous prendre un exemple qui est très simple. Vous connaissez, symboliquement, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils arrêtent la construction de 800 logements, j'ai oublié le chiffre, logements sociaux dès décembre, alors qu'ils ont été élus en juin. C'est des choses qu'ils ne feraient plus. Maintenant, ils se battent, dit-il, on peut trouver que c'est pas assez ou que c'est démagogique, peu importe. Mais il n'est plus question de remettre en cause le logement social, alors que la mesure en novembre-décembre a choqué profondément, parce qu'elle était une façon de dire « Ah, ça suffit, c'est un coup d'arrêt à une politique, finalement, pas d'extrême-gauche, mais... »
Enfin, quand même, parti d'un libéralisme, disons, giscardien, hein, pour faire court, il est devenu vice-président de l'UMP, qui est un parti franchement à droite.
Moi, je ne pense pas que l'UMP soit plus à droite. Je pense qu'à l'UMP, il y a tout. C'est le grand parti de la droite. Donc l'UMP, grâce à Sarkozy, a gagné une partie des électeurs du Front National. C'est une chose. L'ensemble des courants politiques, UMP, Parti Socialiste, voire Parti Communiste, ont viré vers ce qu'on appelle plus la droite par rapport à ce que fut la gauche des années 60, 70, 80. Donc il y a une restructuration de fond de tout le champ politique. Mais je ne dirais pas, moi, que l'UMP... Je pense que le gaullisme est mort définitivement et que la droite donc, est obligée de reconstruire son idéologie, sa pensée, etc. Et M. Godin est dans cet effort-là, dans ce travail-là. Voilà, ça c'est une réponse. Mais je ne crois pas, moi, que le curseur plus droite, plus gauche est un curseur... On fixe comme ça et après on voit où ça dérive. Parce que, je vous le dis, si je dis que le PS, quand on lit les textes du PS aujourd'hui, c'est plus les mêmes que les années 60, où il y avait encore la collectivisation des moyens de production, quand il y a dans le parti d'Épinay des années 70 encore. C'est une aberration de penser que le PS puisse penser ça. Donc, tout le monde ayant viré, entre guillemets, à droite, ou pas à droite, j'en sais rien, tout le monde repense le monde. Et M. Godin là-dedans.
Euroméditerranée, c'était une création de Robert Vigouroux, je crois, en 93, en tout cas.
C'est une initiative qui part de Marseille, de la Chambre de Commerce et de la Mairie.
En tout cas, Jean-Claude Gaudin en fait presque son cheval de bataille économique à Marseille. Peut-être s'installe-t-il d'une certaine manière dans les pantoufles de Vigouroux. En tout cas, Jean-Claude Gaudin, euro-marseillais.
Alors, Euroméditerranée, c'est une chose qui est assez amusante d'ailleurs, parce qu'il faut quand même enlever Méditerranée, quoi. Si vous regardez ce que c'est Euroméditerranée pendant des années, ça a fonctionné, Euroméditerranée, ça a fait beaucoup de choses, ça a construit, ça a fait des entreprises. Mais j'ai plus envie que viennent Nokia que des Arabes d'en face, j'ai remarqué, moi, dans Euroméditerranée. Alors, c'est évidemment, on est au bord de la Méditerranée. Donc ça, c'est une première chose. C'est juste sémantique, mais pas tout à fait. Mais effectivement, Vigouroux initie ça. C'est pour ça qu'il vote pour M. Balladur, ce qui fait exploser sa propre majorité, dont Poitvin, on en a parlé tout à l'heure. Et Godin reprend. Ça veut dire quoi, Euroméditerranée? Ça veut dire que M. Godin est capable de faire venir ou de continuer à faire venir l'argent de Paris. Et tous les entrepreneurs locaux ou les urbanistes locaux ou les acteurs politiques locaux vous disent que Marseille fonctionne avec l'aide de Paris. De l'État. Pourquoi? Parce que c'est une ville pauvre. Et que sans ça, on peut pas faire. Donc, Euroméditerranée, d'ailleurs, il y a un débat un peu étrange, puisque la gauche reproche parfois Euroméditerranée, mais la gauche était représentée par l'intermédiaire du conseil général, le conseil régional, et tous les votes Euroméditerranée se sont faits à l'unanimité, ou à peu près. Donc, il n'y a pas de débat stratégique entre droite et gauche sur Euromède. Tout le monde est d'accord. Bon, Godin dit que c'est lui et c'est Muselier qui présidaient, mais Madame Sylvie Andrieux qui était à voter. Alors, il donne moins le conseil général et le conseil régional que la ville, bien sûr. Mais quand même, Euroméditerranée, c'est l'État. Balladur, puis Jospin, puis Fillon, ou Chirac et Sarko ont toujours donné à Euroméditerranée. Enfin, donné. C'est un dû, hein, c'est pas des cadeaux, mais voilà. Donc il y a une vraie continuité de gestion euroméditerranée. Et moi, je n'ai pas lu vraiment de différence dans les projets d'Euroméditerranée entre droite et gauche. J'en ai vu aucun.
Merci Michel Sanson d'avoir éclairé ces quelques 50 années d'histoire marseillaise, d'histoire de la politique à Marseille et notamment autour des élections municipales. Peut-être pour prolonger cette discussion, quelques ouvrages à découvrir ou à redécouvrir. L'histoire universelle de Marseille par Alessie Dell'Umbria, c'est publié chez Agone. Gouverner Marseille par Michel Sanson et Michel Peraldi. Et puis incidemment votre blog Michel Sanson, marseille2008.blog.le monde.fr. Je citerai aussi de Robert Mencherini Midi Rouge, Ombre et Lumière, Histoire politique et sociale de Marseille et des Bouches-du-Rhône. C'est publié chez Sileps. Migrance, une série d'ouvrages d'Émile Temim, historien des migrations et de l'histoire de Marseille, c'est chez Edisud. Et puis Jean Viard, Marseille, ville impossible, c'est chez Payot. Prochain rendez-vous dans cette thématique municipale 2008, c'est Un territoire des pouvoirs, une émission présentée par Marc Ouvoiry, mardi 26 à 18h.
Les municipales 2008.